Amour. Je l'avais connue quand nous étions jeunes, puis nous nous étions perdus de vue pendant des décennies, jusqu'au jour où je la retrouvais dans l'un des camps de réfugiés. Il est des visages que le malheur change jusqu'à les rendre méconnaissables, mais il y a ceux qui possèdent quelque chose, un trait caractéristique peut-être, qui se révèle inaltérable ou indéformable face au temps, au déplacement ou à toute espèce de souffrance. Les yeux de Sophie étaient d'un gris profond qui, parfois, suivant la météo, virait presque au violet. La première fois que j'aperçus sa mince silhouette dans la file qui serpentait le long du grillage, une couverture bleue drapée sur ses épaules, je fus incapable de me rappeler son nom ou même à laquelle des époques tumultueuses de ma vie elle appartenait, mais je reconnus ses yeux. Puis j'entendis sa voix et alors je me souvins, et pendant le petit bout de chemin que nous fîmes ensemble, ce que je ne me rappelais pas ou n'avais jamais su, elle me le dit. À cette époque-là, Sophie n'était pas seule, et malgré toutes les années qui s'étaient écoulées depuis, avec leurs innombrables effondrements et désintégrations, je m'attendais encore un peu à voir Ezra surgir du fouillis de ruelle, engoncé dans un manteau minable qui lui tombait sous les genoux, la barbe en bataille, rabbinique et fanatique, serrant dans sa main une miche de pain ou une boîte de conserve échangée ou obtenue grâce à son baratin façon Ezra. J'avais toujours bien aimé Sophie et j'enviais Ezra de l'avoir tout à lui. J'enviais aussi le caractère apparemment inévitable de leur couple, la solidité de leur relation, alors que le reste d'entre nous ne cessait de s'unir et de se désunir, de pratiquer les relations d'un soir, de tomber amoureux pour découvrir finalement que nous n'étions que des crétins. Ils s'étaient rencontrés à New York vers la toute fin des années 1990, mais assez longtemps avant leur fin exacte pour que, à son approche, ils eussent déjà projeté de la passer ensemble, de passer le nouvel an à camper sous la neige, tandis que tous les ordinateurs de la Terre cafouilleraient, effaçant le temps, nous ramenant tous à l'âge de pierre. Ces deux-là, toujours prêts à tout, partant pour tout, étaient disposés même à ça, à flirter dans leur caverne blanche glaciale ou bien allongés sur le dos, juste devant, lovés dans les ailes des anges que leur corps dessinait dans la neige, à contempler non le flamboiement des feux d'artifice de Grouchy, mais des étoiles originelles. Des étoiles éparpillées un peu partout dans l'univers au-dessus du Colorado, je crois, ou peut-être du Wyoming. Le fait que ni elle ni lui, l'un élevé sur la rive nord de Long Island et l'autre sur une île de South Jersey, tous les deux dans des congrégations Beth Shalom, tous les deux dans des familles kasher mais pas Shomer Shabbat, où être américain était un accident de l'histoire, la langue anglaise un accident de l'histoire, la nature un accident de l'histoire, le fait qu'aucun des deux, donc, n'eût la moindre idée de la façon d'allumer un feu, de planter une tente ou d'imperméabiliser leurs affaires, encore moins de survivre par des températures négatives, ne les effrayait pas du tout, parce que jusque-là, ils s'étaient montrés fantastiquement, presque miraculeusement talentueux, non seulement en intégrant les bonnes universités et en faisant leur chemin dans le monde, mais aussi en décelant la beauté. Leur première séparation, avant que se profilât la fin de ce millénaire pénible pour tous mais pas pour eux, fut, il faut le dire, la raison pour laquelle ils renoncèrent finalement à camper dans la neige. Pas parce qu'ils n'y seraient pas arrivés, pas parce que sa famille à elle qui tentait encore en vain d'exercer son influence prononçait le mot de folie, le mot d'hypothermie, pas parce que les billets d'avion atteignaient des prix prohibitifs sans parler de tout l'attirail imperméable, pas parce qu'ils avaient l'un ou l'autre cessé de croire, fût-ce l'espace d'une seconde dans l'authentique et réconfortant éclat de ces fameuses étoiles. Ils se séparèrent pour je ne sais quelle raison, et la souffrance fut terrible, insupportable, du moins pour Sophie. Mais sans doute aussi, je ne peux m'empêcher de le penser, pour Ezra de perdre une femme comme elle. C'était l'époque où les téléphones portables n'existaient pas encore, où l'accès à Internet se faisait par ligne commutée et qu'il ne s'y passait quasiment rien, si bien que, pendant un certain temps, il n'y eut que le silence entre eux, que des larmes et des doutes, sans rien savoir, sans aucune possibilité de savoir, autrement dit, de la souffrance et de l'attente. L'horizon événementiel apparut et disparut devant eux, chacun au sec, au chaud et seul. Bien qu'à minuit, ivre et se sentant impitoyable, elle s'était tournée vers le type qui l'avait mise au pied du mur par ses discours, moi, et l'avait embrassée. Mais à la fin février de la nouvelle année avec tous ses héros, ils se croisèrent par hasard dans une file d'attente devant le cinéma Film Forum. Des excuses furent chuchotées, de nouvelles larmes versées. Sa main à elle glissa sous son veston et sa chemise de flanelle à lui, cherchant de la peau nue et tiède, et, sans plus attendre, ils se remirent ensemble, se respirant l'un l'autre comme ils le faisaient autrefois, car existait-il quelqu'un capable d'aimer aussi fort qu'elle, d'aussi bout en train et honnête? Existait-il quelqu'un d'aussi drôle et caustique que lui, d'aussi passionné, d'aussi volubile? Existait-il quelqu'un qui acceptait comme elle d'aller voir tous ses Pasolini et ses Fellini avec lui, ou quelqu'un disposé à lui lire à elle les contes acidiques de Martin Buber au téléphone? Celui sans fil qu'elle maintenait brûlant contre son oreille, les soirs où il était dans le centre-ville et elle dans les beaux quartiers et où elle n'arrivait pas à dormir. Que oui, en fait, dans New York City au tout début du nouveau millénaire, il y eut encore des gens prêts à faire cela, capables de faire cela, n'avaient rien à voir avec leur amour, tout comme n'avaient rien à voir. Alors qu'ils étaient de nouveau blottis l'un contre l'autre, le fait qu'ils s'étaient rencontrés un après-midi du printemps 1999 par le plus grand des hasards, et que, si cela n'était pas arrivé, chacun serait tombé amoureux de quelqu'un d'autre, ce qui signifiait que chacun d'eux était remplaçable, que chacun d'eux pouvait être remplacé. Dès lors, ils furent solidement unis, leur vie de couple établie, devenue un élément fixe que nous observions tous avidement, que nous envions, dont nous rêvions. Très semblable mais éclairée différemment, telle était, à leurs yeux, la beauté simple, précise de leur union. Un jour, au tout début, allongée nue sur le matelas de l'appartement qu'il habitait dans l'East Village, elle évalua à voix haute leur compatibilité. Il écouta, acquiesça, puis livra son point de vue. Alors qu'elle donnait à tous l'impression d'être une gentille petite fille qui faisait tout comme il fallait, en réalité elle aimait la transgression, disait des grossièretés, et son côté sombre eût souhaité l'être encore davantage, tandis que lui, présenté comme quelqu'un de sombre, névrosé et obscène, était en réalité chaleureux et plutôt gentil. À part ça, il comptait à peu près le même nombre d'aïeux survivants de l'Holocauste, avait plus ou moins le même nombre de parents en Israël, avait chacun une mère née en Europe, un père tout juste né en Amérique et républicain jusqu'à Reagan. Chacun avait été élevé avec la même interdiction absolue d'épouser un ou une goy, ou d'échouer de quelque manière que ce fût, ce qui revenait à dire que chacun était le produit du même tribalisme orgueilleux, étriqué, violent, inquiet, rassurant et dévorant à la fois. Mais tandis que la mère de Sophie, mal remise des contraintes imposées par son enfance orthodoxe d'après-guerre dans le nord de Londres, avait envoyé sa fille dans une école publique de Roselyne, Ezra, lui, avait été envoyé dans une yeshiva dont il avait finalement été exclu. Encore au-delà de ça, chacun voulait être ce que sa famille, qui en avait pourtant tellement vu, n'avait encore jamais vu. Quelqu'un qui considère comme sa vocation non pas de faire carrière, de gagner de l'argent, ni de connaître le succès, mais de se consacrer à l'art. Pasolini, répétai-je quand Sophie me révéla ce détail. Couchée sur sa paillasse, sous la couverture bleue toute sale et en loque, elle regardait la pluie couler goutte à goutte dans un bidon métallique rouillé, plein à ras-bord. J'avais oublié ce nom, et à ce moment-là, oublié les images de la plupart des films que j'avais vus autrefois. Mais Sophie, elle, se les rappelait tous. Elle était capable de décrire des scènes entières, la lumière et les divers angles de la caméra. Elle se souvenait même des dialogues, et quand elle nous faisait découvrir ses films, son regard gris-violet s'adoucissait, comme si elle les voyait de nouveau, projetés sur la bâche des tentes de fortune, les murs délabrés et le ciel crasseux, zébré de fils électriques. Quiconque se trouvait à proximité ou attendait avec nous sa ration de nourriture, de vaccins ou de briques de jus de fruits qui pouvaient ou non venir, se taisait et se mettait à écouter. Et bien que je n'en ai aucune preuve, je tiens à dire que les films que Sophie projetait dans notre tête avec la lanterne magique de ses mots, débarrassés de tout le reste, acquéraient une forme plus achevée, la plus achevée de toutes. Au tout début du nouveau millénaire, je vis pas mal Sophie, et donc Ezra aussi, à des dîners, des réunions d'amis ou des soirées organisées par les établissements qui les employaient. Puis, environ 2 ans après le 11 septembre, je partis travailler à Londres et perdis Sophie de vue. Ezra et elle vivaient toujours ensemble et je me rappelle avoir appris qu'ils s'étaient fiancés et qu'un mariage était envisagé chez ses parents à elle, à Long Island. À cette époque, j'avais cessé, j'imagine, de fantasmer sur elle. Il me semblait alors bien et juste que ces deux-là, dont l'union était si prédestinée, si solide et symétrique, ouvre la voie vers des régions plus lointaines, les régions apparemment encore lointaines de l'âge adulte, où nous finirions tous par être mis à pâturer dans les champs de la paternité et de la maternité. Mais le temps passa sans qu'arrivât aucune invitation, alors que d'autres de nos connaissances allaient de l'avant et se mariaient, que des bébés naissaient, certains d'ailleurs chez les dernières personnes que nous imaginions prêtes à former une famille nucléaire. Et puis, une certaine année, de retour à New York pour les vacances, reprenant contact avec les amis que j'y avais gardés, je finis par apprendre qu'Ezra et Sophie s'étaient séparés. Lorsque je la rencontrai, des décennies plus tard, dans le camp, Sophie était déjà mal en point. Sous-alimentée, affaiblie et tuberculeuse, elle ne se déplaçait qu'entre sa paillasse et le carrefour, le centre de fortune où avaient lieu les distributions et où se formaient les files d'attente. Plus mobile qu'elle, je partais à la recherche de ce que je pouvais éventuellement trouver, utiliser, échanger ou manger, me servant de mes relations au sein d'associations officielles ou pas, et encore assez solide pour m'activer, si bien que mon esprit sautillait et ricochait à la surface du malheur au lieu de s'y laisser engloutir. Au cours de mes allées et venues dans le camp, il m'arrivait de passer devant le poste médical, la salle aux vitres brisées où l'on célébrait encore des mariages, le type qui coupait les cheveux, celui qui vendait des récipients et l'homme à tout faire coiffé d'un turban qui travaillait à l'ombre d'un porche. Il prenait un brûleur ou un radiateur à gaz cassé et, hochant la tête de côté, disait invariablement « Demain c'est bon » au propriétaire impatient de savoir quand il ou elle pourrait récupérer son bien. Parfois, certaines parties du camp étaient inondées et quand l'eau se retirait, il ne restait qu'une mare de boue impraticable. Mais je revenais toujours voir comment allait Sophie et lui apporter ce que je pouvais. Ça me faisait du bien de lui être utile, de pouvoir lui faciliter un peu la vie. Quand elle devint totalement incapable de bouger ou n'en eut plus l'envie, je pris l'habitude de m'asseoir à côté d'elle, trempant dans l'eau un chiffon que je passais sur son front fiévreux ou bien lui tenant simplement la main. Et les jours où elle allait un peu mieux, ses yeux gris-violets perdus au loin, elle déroulait pour nous un passage de film ou un autre. Une fois, elle fit tiens en entier, à partir de la première scène, celle où les aiguilles de pin se détachent sur les lumières vacillantes du vaisseau spatial extraterrestre, où ses deux longs doigts bruns, noueux et hyperpréhensiles se lèvent et arrachent une branche afin de dégager la vue, et où l'on devine que quelqu'un n'arrivera pas à rembarquer à temps, et tout cela jusqu'au déchirant adieu final. Quand Sophie arriva au bout, un gamin aux traits délicats, coiffé d'un chapeau à bord flottant, les bras autour des genoux, se mit à pleurer, les larmes striant de blanc son visage sale jusqu'au moment où il épongea le tout, à la manière d'un essuie-glace, avec la manche de son sweat à capuche. Je réussis plusieurs fois à faire lever Sophie, et nous allions clopin-clopant jusqu'au grillage au-delà duquel on voyait les barbelés et les camions militaires, mais encore au-delà, une petite étendue de mer grise et inerte. Cela nous rappelait qu'il restait des endroits magnifiques. D'où nous étions, nous ne sentions pas l'odeur du plastique que les gens brûlaient pour se réchauffer et qui abîmait les poumons. Quelqu'un avait traîné là un fauteuil déglingué au tissu en lambeaux, dont la mousse jaune desséchée explosait de toutes parts. Mais il était assez large pour que nous puissions nous y asseoir tous les deux côte à côte, et, le regard au loin, nous exhumions parfois une chose confuse, disloquée, qui nous était arrivée à tous il y a bien longtemps, et nous la contemplions un moment sans espoir de pouvoir l'utiliser pour quoi que ce fût, ni de la remettre à la place qui était la sienne. Non sans une certaine pertinence, une multitude d'ordures était venue se coller au grillage et se loger dans ses trous, bouteilles, sacs en plastique et autres détritus. À environ 5 mètres de l'endroit où nous étions assis, le vent avait plaqué contre la clôture un grand morceau de plastique noir disposé de telle façon qu'il ressemblait exactement à un manteau. Un long manteau noir à large col et aux plis flottants, qui paraissait avoir été pendu là, aussi délibérément que sur une patère dans l'entrée douillette d'une maison, et attendre que son propriétaire fût prêt à ressortir. Cette feuille de plastique ressemblait tellement à un manteau que nous vîmes d'abord un vieil homme, puis une femme corpulente coiffée d'un béret de marin, s'en approcher rapidement, jusqu'au moment où l'un et l'autre en furent assez près pour que l'illusion leur apparût, pour ce qu'elle était, une simple ordure. Ce manteau, dit Sophie, après le départ de la femme abattue et penaude, ça me rappelle quelque chose. Le vent jouait dans l'ourlet du haillon. C'était arrivé, commença-t-elle, environ 6 mois avant sa séparation d'avec Ezra. On était en hiver, et elle se promenait avec un ami à Chelsea, regardant peut-être les vitrines des galeries d'art. Ils tournèrent sur la Whiteside Highway et le vent glacial de l'Hudson les transperça. Elle se mit à frissonner et son ami qui vivait à l'étranger et qu'elle voyait rarement s'interrompit au beau milieu d'une phrase pour lui proposer son pardessus. Elle refusa parce qu'elle n'allait évidemment pas le dépouiller de son vêtement, même si elle avait atrocement froid. La conversation se poursuivit, mais presque sans elle. Elle s'absenta, figée dans cette proposition, suffoquée à l'idée qu'il l'eût faite, que quelqu'un pensât à cela de manière si intuitive, comme si la bienveillance faisait à ce point partie de sa nature que ce geste, qui recélait un tel degré de bonté, de sollicitude sincère, pouvait être chez lui un quasi-automatisme. Mais c'était simplement qui il était, la façon dont on lui avait appris, ou peut-être dont il avait appris tout seul à se conduire. Et sa prévenance toucha chez elle un point sensible, parce qu'elle sentait de plus en plus que c'était quelque chose qui manquait à l'homme avec lequel elle vivait et avec lequel elle avait l'intention de finir ses jours. L'idée lui vint que, depuis le temps qu'elle était avec lui, pas une seule fois Ezra ne lui avait proposé son pull ou sa veste. « Et j'avais presque tout le temps froid, dit-elle. J'étais toujours grelottante, même quand tous les autres avaient chaud. Mais peut-être qu'il ne le remarquait pas, après tout. » En fait, non, poursuivit-elle, ça allait plus loin. Elle pouvait être malade au fond de son lit sans qu'il pensât jamais à lui apporter une tasse de thé, ce qui ne lui aurait rien coûté. Un jour, où elle lui préparait un baguette, le couteau glissa et lui entailla profondément le doigt. Elle le tint un moment, dégoulinant de sang sous l'eau froide. Ezra se leva, va alors du comptoir et s'approcha d'elle. Elle pensa qu'il allait l'étreindre par derrière, mais au lieu de cela, il prit le couteau et finit de couper le baguette qu'il mit dans le grille-pain. « Ce n'est pas qu'il ne l'aimait pas, dit-elle. Elle avait toujours su qu'il l'aimait dans la mesure de ses moyens. Simplement, il était préoccupé, absorbé en lui-même. Il ne savait pas d'instinct comment prendre soin de quelqu'un d'autre, ce qui suppose d'abord d'être attentif, d'écouter. Mais au moment où son ami comprit qu'elle avait froid et s'interrompit dans ce qu'il disait pour lui proposer son manteau, elle pensa avec tristesse à tout ce dont elle avait été privée. Le vent jouait sans cesse dans les cheveux de Sophie, tandis qu'elle parlait, révélant les endroits dégarnis. Ce n'était pas le genre de choses qu'elle aurait pu expliquer à qui que ce soit, dit-elle. À bien des égards, elle savait qu'Ezra et elle avaient eu beaucoup de chance de se rencontrer, de s'entendre aussi bien. Beaucoup de chance d'avoir trouvé certains rythmes de vie et d'intimité paisibles qui les avaient maintenus à flot. Tout ce qu'elle aurait pu confier à quelqu'un d'autre aurait paru ingrat, pensa-t-elle. Elle aurait eu l'air de récriminer auprès d'amis qui avaient vécu des séparations brutales ou avaient été maltraités, qui avaient eu le cœur brisé ou étaient seuls parce qu'ils ne trouvaient personne. Et puis un jour, ils étaient allés voir un film. Il était en français, précisa-t-elle, et, d'une certaine façon, on pouvait dire que l'histoire était très simple. C'était celle d'un vieux couple, des professeurs de musique à la retraite, heureux ensemble depuis très longtemps. Un soir, ils vont à un concert et, le lendemain matin, pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner en robe de chambre dans la cuisine, la femme fait un premier AVC. À partir de ce moment-là, tout le film se passe dans les pièces de leur vie commune, à essayer de comprendre ce qui se passe quand deux personnes sont restées unies une vie entière et que l'une d'elles, soudain, tombe malade. Quand il revient à l'autre, d'imaginer comment s'occuper d'elle, de l'aider à vivre avec un minimum de souffrance et d'indignité. Assise dans la salle obscure, Sophie avait observé le visage du vieux mari, me dit-elle. Observé son expression tandis qu'il s'occupait de sa femme avec une telle patience, une telle tendresse, une telle loyauté. Sa femme lui avait fait promettre de ne plus jamais la renvoyer à l'hôpital, et il ne voulait pour rien au monde trahir cette promesse, quel que fût l'effort que cela lui demandait. Mais ce n'est pas un saint. Il se met parfois en colère, et, un jour, en proie au découragement, il va jusqu'à la gifler parce qu'elle refuse de manger ou de boire, parce qu'il est le seul à lutter pour la maintenir en vie. Pas une fois, cependant, il ne renonce à lutter. Pas une fois, il ne renonce à veiller sur elle. Ce n'est que le prolongement de ce qu'il a été pour elle, de ce qu'elle a été pour lui pendant plus de 50 ans. Même si cela est intuitif, même si c'est l'expression de sa nature, il n'en est pas moins éprouvé et contraint à d'immenses efforts. Vers la fin du film, Sophie s'était mise à penser à ses parents, à la façon dont, malgré une vie très dure, ils avaient toujours veillé l'un sur l'autre. Qu'ils agiraient ainsi jusqu'à la fin ne faisait aucun doute et, dans une certaine mesure, ajouta Sophie, elle avait toujours vécu protégée par cette supposition, de ce que cela disait non seulement de ses parents, mais de l'amour et des gens en général. Seulement elle comprenait à présent qu'elle-même avait fait un choix différent. Plus jeune, elle avait attribué de l'importance à d'autres choses, en conséquence de quoi elle avait jeté son dévolu sur un homme qui, bien qu'il comptât beaucoup pour elle, ne serait jamais capable de s'occuper d'elle s'il lui devenait impossible de s'occuper d'elle-même. Une fois le film terminé, alors que, dehors, il retrouvait le soleil, elle sut que quelque chose de beaucoup plus grand avait pris fin. Et peu de temps après, elle annonça à Ezra que c'était fini, qu'elle ne pouvait pas l'épouser. Sophie esquissa un petit sourire tordu et regarda par-delà les barbelés en direction de la mer grise et sale. Puis elle haussa ses épaules décharnées et leva ses mains vides vers le ciel comme pour souligner cette absurdité. Mais à quel aspect de la dite absurdité elle faisait référence, je n'aurais su le dire. Celle de croire que les décisions concernant qui aimer et à qui nous lier se prennent de manière rationnelle? Ou celle de supposer que nous aurons droit à une mort juste ou naturelle? Ou bien pensait-elle à l'absurdité d'avoir cru à la possibilité de consacrer sa vie à quelque chose au-delà du lendemain, au-delà de la simple survie? Ou alors, juste à l'éternelle et banale absurdité d'avoir vécu un début si différent de la fin? Je n'assistais pas à sa fin à elle. J'étais en train de faire la queue quelque part, ou de tenter d'établir une connexion, ou de chercher de l'eau, ou bien d'attendre.